Au cœur de notre monde, plein de désolation, mais aussi rempli de merveilles, de nos vies pleines de souffrances, mais aussi illuminées d'espérance, nous pouvons nous ouvrir tout de suite à la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère, qui s'est donné par amour pour manifester l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Il est réconfort dans toutes nos afflictions, de sorte que nous avons l'amour et la force de réconforter ceux qui se trouvent eux-mêmes dans la peine, dans la difficulté. Alors pour nous ouvrir à cette soif de salut, je vous propose de chanter ensemble le psaume 42 comme un cerf alter ebram dans le psautier français, les strophes 1, 3 et 8 du psaume 42.
Père, notre Père, il y a des temps difficiles qui rappellent des passés douloureux. La mort du juste de l'homme innocent, de Jésus mort à la suite de souffrances extrêmes, endurées et absurdes, dues à la bêtise et à la haine. Père, nous te prions unis en esprit autour du Christ souffrant, en pensant à tous ceux qui, comme Jésus, sont injustement frappés, mais en pensant aussi à tous les bourreaux, prisonniers de leur haine. Père, qu'à travers les lignes lues et partagées ce soir, nous puissions réaliser combien tu accompagnes le monde en détresse et les hommes perdus. Et surtout, que par ton amour révélé dans ces mots et les témoignages écrits et transmis, nous puissions saisir la force de ton amour pour le monde. Amen. Dans le registre louange et prière, je vous invite à chanter la première strophe du psaume 119, chef couvert de blessures. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons ceci au chapitre 26 et au verset 47 à 56. Comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent et portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puis invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple et j'enseignais, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et je vous invite à prendre la deuxième strophe du 119, je vous invite à rester assis. Thank you. Au verset 57 à 68, nous lisons ceci. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les pharisiens et les anciens s'assemblèrent. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-là a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ? De quoi témoigne-t-il contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et il dit, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il est passible de mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant, « Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé. » Et je vous invite à prendre la troisième strophe du 119.
Et nous poursuivons donc au Matthieu 27 à partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. » Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tout ce dont il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna pas de réponse, sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait la coutume de relâcher un prisonnier. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Et comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient en fait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent néanmoins la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Alors le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit, « Mais que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Tous répondirent, « Eh bien, qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien à cette affaire, mais que le tumulte augmentait encore, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau d'écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis ils l'agenouillèrent devant lui, ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait sur lui, il prenait le roseau, le frappait sur la tête, et après s'être ainsi bien moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Avant de lire la suite, nous chantons la quatrième strophe, donc du cantique 119. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas en boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Et les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Toi qui prétends détruire le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends donc de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Ah, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, et bien qu'il descende de sa croix et alors nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, mais que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu » et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et le fixa à un roseau pour lui donner à boire. Mais les autres dirent « Laisse, voyons voir si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent, Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte. Après la résurrection de Jésus, ils apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». Et donc nous chantons la cinquième et dernière strophe du cantique 119.
Je vous propose de mettre en perspective ces récits avec ce passage de l'Ancien Testament dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 18. David est roi depuis bien longtemps, et son fils Absalom n'arrive plus à patienter. Il est en train de fomenter un coup d'État, il veut prendre le pouvoir pour être roi à la place de son père. Un conflit l'oppose donc, la bataille est proche. Et au deuxième livre de Samuel, au chapitre 18, à partir du verset 5, nous lisons ceci. Le roi David donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Ittai. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 sicles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 sicles d'argent, je ne mettrai pas ma main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishai et à Ittai. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit,
je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Chers frères et sœurs, ce cri de Jésus sur la croix suffit à lui seul pour dire toute l'horreur du moment, toute son atrocité. Et après tout, ce cri pourrait peut-être résumer toute cette journée du Vendredi Saint. C'est un cri qui traduit la souffrance physique. Jésus a été copieusement frappé. Elle traduit plus encore la souffrance morale de celui qui est supplicié et qui se sent seul au monde. C'est le cri de celui qui ne comprend pas ce qui se passe. C'est le cri de celui qui ne se résout pas non plus à voir dans l'enchaînement des événements quelque motif de satisfaction que ce soit. Il n'y lit pas le plan de Dieu. Contrairement à Socrate, qui semble avoir bu son poison avec une forme de sérénité avant de s'éteindre, eh bien Jésus exprime son inquiétude et même son désarroi. Ça ne se passe pas comme prévu. Ce n'est pas cela qu'attendait Jésus. Ses espoirs sont manifestement déçus. Et je pense que cela est une indication assez importante, puisqu'elle exprime qu'il n'y a chez Jésus aucun fatalisme. On pense souvent Jésus entièrement soumis, aveuglément soumis, une sorte de fanatique. Mais ici, il n'est pas du tout question de cela. Il n'est pas question de s'habituer à la mort, en particulier lorsqu'elle frappe aveuglément, quand elle est provoquée. Ne pas s'habituer aux scènes d'horreur. Ne pas s'habituer au goût du sang. Peut-être pour ne pas succomber soi-même à la tentation de la réciprocité. La mort reste abjecte. Et c'est pourquoi, après ce récit, nous ne devrions plus jamais être du côté de la mort. La mort ne saurait être une manière de rendre la justice. Les commentateurs et les éditeurs de la Bible en français s'accordent à vous dire que Jésus, par ce cri déchirant, cite le psaume 22, un psaume qui commence par ce sentiment d'abandon extrême, effectivement, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que le croyant continue à exprimer en déplorant qu'il crie le jour et que Dieu ne répond pas. Dieu est comme absent. Et d'ailleurs, dans cet épisode de la crucifixion, Dieu est le grand absent. C'est ce qu'on appelle la déréliction. Et loin de l'image du Messie glorieux, Jésus en est réduit, à porter déjà les stigmates de la vie martyrisée par ceux que le pouvoir obsède, par les manigances entre gens de pouvoir et ceux qui voudraient en avoir plus. Ce que nous voyons à travers Jésus, à travers ce chef couvert de blessures, c'est le serviteur broyé par les ambitions du grand prêtre et de sa clique, par les ambitions des politiques qui, les uns et les autres, veulent avoir un pouvoir sans contestation et sans opposition. Se référer au psaume 22, c'est reprendre les mots qui disent l'état de dépression profonde qui envahit les victimes, quelle que soit la nature du mal subi. C'est un psaume qui donne les mots pour exprimer le mal-être profond. C'est un cri semblable à celui de Job, au fond du désespoir, ou de Jonas qui touche le fond du fond. Et tous peuvent se demander, dans une certaine mesure, « Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Et tous, sans exception, n'auront aucune réponse à cette question précise, parce qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela, tout simplement. Aucune voix ne déchirera les cieux au moment de la mort de Jésus pour répondre quoi que ce soit à cette question que Jésus lance à la face de ses bourreaux. Seul se déchirera le voile du temple, ce grand tissu qui délimite l'espace sacré réservé à Dieu. Ce voile qui se déchire dans une certaine mesure indique que Dieu n'est pas resté dans son coin, à l'écart. Le voile se déchire comme le vêtement de l'endeuillé se déchire. C'est Dieu qui porte le deuil. Cela indique que Jésus, pas plus que l'auteur du psaume 22, n'était en fait abandonné. Mais la présence divine n'est pas forcément ce que nous imaginons ou ce que nous espérons. La présence divine ne nous exempte ni des difficultés, ni des tragédies. Dieu n'empêche pas le mal. Dieu, c'est ce qui nous permet de faire quelque chose de ce qu'on fait de nous. Et c'est d'ailleurs ainsi que se poursuit le psaume 22, qui entraîne le lecteur dans une célébration joyeuse contre toute attente, avec une communauté fraternelle, lui qui se sentait si seul, abandonné. Le psaume 22 passe du sentiment de l'abandon à l'exultation au sein de la fraternité que Dieu nous révèle. Si Jésus cite le psaume 22, alors cela signifie qu'il entraîne le spectateur et à sa suite le lecteur que nous sommes, sur un chemin de résurrection déjà, qui ne considère pas le malheur, la mort, comme un point final de l'histoire. Un tel fatalisme serait un malentendu. Les malentendus, ce n'est pas ce qui manque d'ailleurs dans les évangiles, et notamment dans ce passage. Au moment où Jésus crie, des personnes qui assistent à la scène ne comprennent pas le sens de son appel et pensent qu'il sollicite le prophète Élie. Ces gens ne sont pas les seuls à avoir du mal à comprendre ce qui se passe. Nous-mêmes, sommes-nous bien sûrs de comprendre cette parole mise dans la bouche de Jésus par l'évangéliste ? Nous avons tellement entendu dire et répété que Jésus citait le psaume 22 que nous y croyons sans plus nous poser de questions. Cette interprétation est devenue un dogme, à vrai dire. Et pourtant, si nous lisons le grec dans sa prononciation d'autrefois, qu'est-il dit ? Eli, Eli, lama sabachthani. Ce n'est pas le texte hébreu du psaume 22 qui est Eli, Eli, lama azaftani, ce qui est quand même singulièrement différent. Serait-ce la traduction araméenne ? Après tout, le mot araméen shabak signifie abandonner. Toutefois, ce que dit Jésus, selon les évangélistes, n'est pas shabachthani, mais sabachthani. C'est un ri et non pas un kappa. De toute manière, les psaumes sont lus en hébreu, pas en araméen. Eli, Eli, c'est de l'hébreu et pas de l'araméen. Et c'est peut-être là que le récit de la mort du fils de David, Absalom, nous est particulièrement utile. Lorsqu'il se retrouve suspendu au bois, comme le sera l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de David, Jésus, quelques livres bibliques plus tard, nous apprenons qu'il est entré dans un bois, sous les branches entrelacées d'un arbre. En hébreu, cet enchevêtrement s'exprime avec le verbe « sabar ». C'est ce même verbe que l'on retrouvera dans le récit de la Genèse, où l'on apprendra que c'est un bélier dont la tête est enchevêtrée dans un buisson qui sera sacrifié à la place d'Isaac, le fils d'Abraham. En hébreu, « Eli, Eli, lama sabachthani » signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu enchevêtré ?» Et le cri est alors singulièrement différent. Il ne désigne plus le sentiment d'abandon, mais l'incompréhension de Jésus, ou plus exactement, son désir de comprendre ce qui se passe, lui qui n'est pas omniscient. C'est le cri de la passion, et peut-être est-ce le cri de son ministère, une sorte de relecture de toute sa vie. Comment en est-on arrivé là ? Et que signifie d'être pendu au bois ? Suis-je donc comme Absalom, le fils révolté, ou suis-je un fils d'une autre manière ? Pourquoi m'as-tu enchevêtré ? Non pas seulement dans cette couronne d'épines qui lui déchire la tête, mais enchevêtré dans la nature, dans cette nature humaine parfois si effrayante. Pourquoi Jésus a-t-il été plongé au cœur du monde ? Pourquoi le Messie n'est-il pas hors sentiment, hors passion, impassible, inatteignable ? Peut-être parce qu'il serait alors inaccessible. Sa prédication, la vie humaine telle qu'il l'a révélée, serait alors inaccessible, hors de portée. Ce ne serait qu'un mirage, à peine une consolation, un opium de contrebande pour peuple désemparé. Si Jésus a été enchevêtré de la sorte, pris dans l'entrelac de toutes les histoires, c'est peut-être pour être les yeux de Dieu au sein de l'enfer, la main de Dieu au sein de l'enfer, le cœur de Dieu au sein de l'enfer, c'est-à-dire pour être humain, de manière inaltérable, au cœur même de la vie humiliée. C'est ainsi que nous entendons une nouvelle fois que l'Évangile n'est pas simplement une belle histoire, un peu naïve, pour rassurer les masses. L'Évangile, la parole de Dieu dont les textes bibliques essaient de rendre compte, s'est incarnée. Elle a pris chair dans une existence singulière qui a été confrontée aux limites de ce qui est humain, montrant ainsi que la vraie naïveté est de penser qu'il n'est pas possible de se conduire en humain avec ceux qui nous entourent. La vraie naïveté est de penser que l'avenir appartient aux plus violents, aux plus haineux, aux plus fourbes. La naïveté est de penser que tous ces comportements sont viables, alors qu'ils ne provoquent que la mort des individus et l'effondrement des sociétés. Une communauté qui se fonde sur la violence est une société qui voue son avenir à la destruction et qui sacrifie son présent sur l'autel de la domination. Absalom était justement du côté de la domination. Ce fils de David voulait le pouvoir à tout prix. Il n'a pas hérité, il a voulu accaparer. Il n'a pas été fils en faisant quelque chose de juste de l'héritage qui lui était promis. Il a voulu prendre la place du père. Il n'a pas mis son désir en balance avec l'espérance plus grande formulée par le père, comme Jésus, pour sa part, l'avait fait au jardin de Gethsémani. Jésus a tout fait, lui, pour rendre au Père la place qui lui convenait. Absalom est l'homme de la violence d'État. Jésus connaît la même fin d'Absalom, pendu au bois et transpercé, mais lui est victime de la violence d'État. Et cela nous invite à nous méfier des apparences, des images. Il ne suffit pas de mourir de façon spectaculaire pour être un véritable martyr. De même, ce n'est pas parce qu'on est pendu au bois qu'on est forcément coupable. Cela nous invite à ne jamais généraliser. Ce n'est pas le fait de clamer « Seigneur, Seigneur » à tout bout de champ qui fait le bon croyant. Et ce n'est pas non plus l'exécution qui fait systématiquement le bon coupable. Jésus va jusqu'au bout des apparences, qui sont si trompeuses. Il accède au cœur de cet enchevêtrement qu'est la vie, pour mettre en évidence qu'une autre logique est à l'œuvre, pour révéler qu'il y a une alternative aux conduites maléfiques. Que fait Jésus ? Il incarne. Il incarne l'espérance de Dieu dans l'enchevêtrement d'une histoire qui dévore les personnes, à l'image de la forêt qui dévore bien plus que l'épée. Quoi qu'il soit pris dans le bois des idéologies, Jésus, par sa trajectoire, offrira une autre issue que celle du massacre. L'histoire de Jésus montre qu'il est possible de traverser les situations qui semblent achevées, inextricables. Dans une certaine mesure, Jésus récuse la tentation de Venise. Jésus se plonge dans l'histoire, se plonge dans l'actualité, se plonge dans le quotidien. Et sa mort n'est pas une fin en soi. Elle est suivie de fortes convulsions. Le monde que l'on connaît se fendille de toutes parts, nous dit l'évangéliste Matthieu. Et il laisse apparaître de puissantes forces de vie qui sommeillaient jusque-là. La mort de Jésus laisse apparaître cette évidence à laquelle adhèrent même les gardes qui n'avaient au départ aucune sympathie pour ce condamné à mort. Cet homme a montré de façon exemplaire ce que peut vouloir dire être fils de Dieu. De cet enchevêtrement qui aurait pu se finir lamentablement, Dieu fait jaillir l'archétype d'une vie authentique. Et c'est en allant au bout de l'enchevêtrement de l'histoire, sans fuir ses responsabilités, que Jésus a pu chercher et sauver ceux qui s'y étaient perdus. Amen.
Et pour prolonger cette belle méditation donc de James sur Jésus en croix, nous vous proposons de chanter le cantique 143, donc dans le petit recueil Louange et prière, les cinq strophes de ce cantique 143, « Ô Jésus, ta croix domine les temps, les peuples et les lieux ». Alors pour poursuivre donc cette semaine de Pâques, demain à 18h ici même, nous avons un temps de chant de nos cantiques, psaumes, chorales et cantiques du temps de la Passion et de Pâques, avec aussi de la musique d'orgue accompagnée de chants, et puis donc un message biblique pour ce samedi donc de Pâques. Et puis dimanche de Pâques, il y a un culte au foyer de l'âme avec Vincent Hubach et un culte ici même avec une prédication à deux voix, James et moi-même autour de Pâques et Paul, Pâques selon l'apôtre Paul, accompagné par le chœur de l'oratoire et puis Jean-Dominique Pasquet avec un choix de pièces d'orgue de tous les siècles qui célèbre donc la Pâque, y compris une pièce qu'il a composée pour, expressément pour ce dimanche de Pâques 2016. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que nous gagnons, je dirais, tout gratuitement de la part de Dieu. Et donc ce temps d'offrande est une façon donc, de manifester notre solidarité et notre louange à Dieu.
Nous prions Dieu. Père, nous avons tant de choses à te dire. Entends notre prière. Toi seul, dans nos nuits obscures, peux nous apporter un peu de lumière. Bien sûr, nous pensons et nous prions pour tous ceux qui ont été frappés par des attentats, des violences, des accidents. Mais au-delà des faits médiatisés, retentit le cri silencieux des malades, des isolés, des incompris, des abandonnés, ceux qui, au loin, meurent de faim, de misère et d'exploitation. Père, donne-nous la force de ne pas oublier ces inconnus et de vivre pour eux. Que tes églises soient fidèles dans le témoignage de compassion, dans l'action diaconale et dans l'unité. Oui, Père, au soir du vendredi, dans nos nuits obscures, nous te prions pour te demander ton aide. Guide-nous sur des routes nouvelles. Fais-nous franchir les portes du salut et de l'espérance. Fais vivre ce monde dans la joie de ta présence, pour qu'ensemble, tous unis, nous puissions te remettre la prière que toi-même tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Je vous invite à poursuivre cette prière par le chant du numéro 403, « Prends ma main dans la tienne », dans les registres louanges et prières, le 403.
Thank you.
et que chacune et chacun reçoive la bénédiction directement de la part de Dieu. Oui, l'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. À Dieu seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis grand merci d'avoir été ici ensemble, grande force, grande espérance d'avoir pu ainsi se rassembler pour ce temps de Vendredi Saint. Bonne soirée, bon retour à chacun.